me traite parfois d'utopiste, je me définis comme un pragmatique. On peut râler contre le système, vouloir tout renverser. Moi, je veux juste l'améliorer en proposant des solutions tirées de mon expérience. Tous les jeudis, Entendez-vous l'écho dresse le portrait de grands économistes. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur celui de Mohamed Younous, qui définissait en ces termes l'ampleur et à la fois les limites de son ambition de réforme du capitalisme, dont le moteur ne fonctionne plus, pour reprendre là encore ses propres mots. Longtemps connu pour avoir largement développé le concept et la mise en place du microcrédit, d'où son surnom de banquier des pauvres, l'économiste coloréa avec la Grameen Bank qu'il a fondée, du prix Nobel de la paix, et depuis le 6 août à la tête du nouveau gouvernement du Bangladesh. Son parcours raconte en creux l'histoire mouvementée de ce pays et la façon dont l'économie peut se faire très politique. Nicolas Roca, journaliste pour RFI, a accompagné Mohamed Younous lors de son trajet depuis la France, où ce dernier se trouvait en tant que conseiller pour les Jeux Olympiques de 2024 début août. Nicolas Roca raconte les circonstances de ce retour au pays et de cette arrivée au pouvoir de Mohamed Younous. C'était au micro de Julie Gacon dans les matins de France Culture le 15 août dernier.
On a eu un échange très court, on a surtout pu parler avec ses conseillers, mais en effet c'était un voyage extrêmement particulier. On sentait que quand il est monté dans l'avion à Paris, il réalisait pas vraiment ce qui était en train de lui arriver. Il était accompagné d'un seul conseiller, je dois avouer que je m'y attendais pas, je pensais qu'il y aurait un peu une dizaine de personnes autour de lui, et on a pu sentir surtout l'émotion assez forte des Bangladais et des Bangladaises qui prenaient l'avion avec lui. Quand il a embarqué pour son second vol de Dubaï en direction de Dakar, il est passé devant la file des gens qui allaient embarquer, et on sentait que les personnes n'y croyaient pas vraiment, et j'ai pu mesurer un tout petit peu l'espoir qu'il pouvait susciter dans le pays. Les gens voulaient lui parler de la situation politique, lui dire ce qu'ils attendaient de lui, et puis voilà, en arrivant sur place, clairement, j'ai réalisé l'immense attente qu'il avait suscité après 15 années de pouvoir autocratique de Sheikh Hasina. Il y avait une foule d'étudiants qui l'attendaient dehors, mais en réalité, il est arrivé un peu comme un sauveur, c'est-à-dire que il y a des officiels, des militaires qui sont venus le chercher dans l'avion, il y avait les manifestants, les figures, les têtes de la révolution étudiante qui était là à la sortie de l'avion pour l'accueillir, avec lesquels il a pu discuter. Il y a eu une conférence de presse, et devant l'aéroport, en effet, là, il y avait une foule assez dense, assez compacte de manifestants qui l'attendaient, parce que c'est eux qui l'ont appelé entre guillemets au pouvoir. Et donc voilà, ils étaient venus célébrer l'arrivée de Mohamed Younous.
Just I'm looking forward to going back home and see what's happening and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we're in.
Sharza Shahabuddin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante associée au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes de l'EHESS CNRS. Vous êtes également enseignante à Sciences Po et à l'INALCO. Alors avant de comprendre et de rentrer dans les détails pour saisir qui est vraiment Mohamed Younous et de retracer son parcours, il faut tout d'abord expliquer ce qui s'est passé au cours de l'été au Bangladesh. Il y a eu de très violentes manifestations qui ont éclaté dans le pays, qui ont fait de nombreux morts. Que reprochait-on au gouvernement en place et a fortiori à la première ministre Sheikh Hasina?
Alors donc bonjour, merci pour l'invitation. Je suis assez contente de revenir aujourd'hui puisqu'on est donc le 5 septembre, presque quasiment pile poil un mois après la fuite de la première ministre, de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina en Inde. Pour aller un petit peu rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre juillet et août de cette année, il y a eu un mouvement étudiant très puissant. À l'origine, c'était pour réformer l'accès à l'emploi public, hein, parce que c'est une société très inégalitaire. Sans rentrer dans les détails, ce qui s'est passé, c'est vraiment la répression sévère. On a eu, en fait, aujourd'hui, de nouveaux chiffres sont sortis. On parle de plutôt autour de 800 personnes qui ont été tuées, dont énormément d'étudiants, ce qui a profondément bouleversé en fait le cours de l'histoire de la politique.
Étudiant qui était à la tête aussi de cette révolte.
Exactement. Et cette révolte en fait a été menée par des étudiants principalement. Et donc cette répression, un certain nombre de raids ininterrompus, internet qui a été coupé en juillet, etc. Donc c'est cette répression qui a fait que le 5 août, la population en fait, après un énième couvre-feu, après une énième demande de couvre-feu, la population bangladeshi, les manifestants se sont précipités vers le Parlement. Et ça a été du coup la fin de ce régime qui était là depuis 15 ans au pouvoir.
Et donc vous l'avez dit, la première ministre de l'époque prend la fuite. Sharza Shahabuddin, comment on explique que ce soit Mohamed Younous appelé au pouvoir, et qui décide de l'appeler au pouvoir?
Alors, c'est une question assez compliquée. La première chose que j'aimerais rappeler, c'est que On avait donc pendant 15 ans au pouvoir la Ligue Aomi, qui est le parti qui a mené à l'indépendance en 1971. Et on a, en fait, on est dans un pays qui est devenu indépendant en 71. Et depuis 71, on a des partis traditionnels qui ont toujours tour à tour gouverné, notamment la Ligue Aomi, mais aussi le Bangladesh National Party et un autre. Il y a eu un certain nombre de dictatures militaires. Et en fait, dans ce climat politique autoritaire, instable, etc., de corruption institutionnelle, Mohamed Ninous s'est sorti, en fait, a émergé comme étant un personnage qui sortait de cette logique de parti traditionnel. Je pense que ça, c'est vraiment le premier élément de pourquoi est-ce qu'il a été appelé et de pourquoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui, qui, pardon, je me permets de reprendre ce terme, on parle un peu de sauveur, c'est un terme que je déteste et je pense que les jeunes aussi, une personne ne va sauver le Bangladesh sera sauvé par les Bangladeshis. Mais effectivement, il a cette... il incarne cette figure du changement. Et par ailleurs, vous l'avez aussi rappelé, il est aussi prix Nobel de la paix 2006, qui lui donne un certain rayonnement à l'échelle internationale.
Charza Chahabouddine, nous ne sommes pas encore rentrés dans les détails de la biographie de Mohamed Younous, mais vous l'avez mentionné, il a été prix Nobel de la paix. On s'en doute, puisque nous sommes ici, entendez-vous l'écho, il est économiste. Pourquoi a-t-il accepté une telle proposition, à votre avis ?
Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'en 2007, donc c'est à partir du moment où il y a eu une véritable chasse aux sorcières aussi, donc ça c'est assez important. Je pense que les jeunes aujourd'hui, donc le mouvement étudiant, a souhaité voir aussi Mohamed Younous, parce que depuis à peu près 2007, l'année où il avait aussi proposé son parti politique Nagorik Shakti, la force des citoyens, il y a eu un certain nombre, une multiplication d'accusations à son encontre, et c'est là où en fait ce côté de victime entre guillemets qu'il a eu, de victime, je veux dire, de ces outrages, etc., lui a permis d'émerger en tant que cette nouvelle figure. Et c'est pour ça que les jeunes ont fait appel à lui.
Isabelle Guérin, bonjour, vous êtes également avec nous en studio et je vous en remercie. Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et vous êtes, entre autres, l'autrice de La microfinance et ses dérives, émanciper, contrôler ou exploiter les pauvres. C'est paru chez Démopolis en 2015. Vous avez donc beaucoup travaillé sur la notion de microcrédit, sur laquelle nous allons largement revenir, tant elle est attachée à la pensée de Mohamed Younous. Mais avant cela, j'aimerais savoir si, en tant qu'économiste qui connaît donc ces travaux d'économiste de Younous, vous avez été surprise par cette arrivée au pouvoir.
Bon, je dois... d'où je parle, déjà, merci pour l'invitation. D'où je parle, je ne suis pas du tout spécialiste du Bangladesh, donc c'est très bien qu'on soit deux à être invités. Donc je ne suis pas l'actualité bangladeshi de très près. Par contre, c'est quand même symptomatique, je crois, de ce que le microcrédit et d'autres outils dont on aura peut-être l'occasion de parler, que Mohamed Younous a œuvré pour tout ce qui est autour du business social, capitalisme à visage humain, il y a quand même tout ça au-delà du microcrédit, et ça montre quand même à quel point, à la fois au Bangladesh, mais aussi à l'échelle internationale, il y a quand même un intérêt qui n'est pas le même que ce qu'il y avait au moment où il a eu son prix Nobel. Il y a quand même un certain nombre de désillusions dont on aura certainement l'occasion.
Sur lesquelles on va revenir à
Mais ça montre quand même que ce personnage et tous les outils qu'il a contribué à créer ou à médiatiser continuent d'avoir un attrait majeur.
Et puis une forte dimension politique, mais on va également s'attacher à le comprendre, et puis pour comprendre aussi l'espoir que suscite Mohamed Younous et le rapport de ce dernier à son pays, il faut revenir, comme souvent, aux origines. Charza Chahabouddine, Younous est né à Chittagong en 1940, c'est au sud-est du Bangladesh. À cette époque-là, il faut bien préciser, et vous l'avez déjà un peu dit, que le Bangladesh fait partie de l'Inde britannique, il n'est pas encore indépendant.
Exactement. Bah, du coup, pour quand même comprendre rapidement la trajectoire historique et politique du Bangladesh, il y a quand même deux dates clés. 1947, c'est la partition des Indes qui va donner naissance au Pakistan oriental qui est le Bangladesh actuel et le Pakistan occidental qui est le Pakistan. Et en 1971, à l'issue d'une guerre sanglante de 9 mois, le Bangladesh va obtenir son indépendance contre l'armée pakistanaise.
Et à l'époque où le Bangladesh n'a pas encore pris son indépendance, est-ce qu'on peut déjà parler d'une forme de situation économique spécifique ?
Alors, tout à fait, le Bengale est une province qui est extrêmement riche de par sa situation géospatiale, sur le delta du Bengale, etc. Donc, c'est un pays de récolte. On parlait au moment où, en fait, il y avait le Bangladesh était la province administrée du Pakistan occidental. On parlait du Bengale comme étant le panier à grains de l'administration centrale pakistanaise. Et donc avec une certaine forme de dépendance du Bangladesh qui dépendait beaucoup de l'administration centrale.
Ce qui du reste a perduré quand même dans les décennies suivantes, voire encore aujourd'hui. Mohamed Younous, lui, va suivre des études plutôt poussées. Alors d'abord au collège à Chittagong, ensuite en 1957, il rentre à l'université de Dhaka. Il obtient une licence en économie en 1960 et ensuite il part aux États-Unis à l'université Vanderbilt dans le Tennessee. Sharza Shahabuddin, dans quelle mesure un tel parcours tourné vers l'international avec, je le disais, plusieurs années d'études à son actif, dans quelle mesure ça relève de l'exception à cette époque-là au Bangladesh?
Je ne dirais pas du tout que ça relève de l'exception parce qu'en fait si on regarde la trajectoire d'autres économistes comme par exemple le fondateur de la BRAC, on pourra y revenir, lui aussi en fait a fait ses études à l'étranger. Donc cette génération, en fait, il faut dire que avant, dans les années, la fin des années 60, on n'imaginait pas forcément que l'indépendance allait s'achever à l'issue d'une guerre. Donc c'était, je pense, quand même dans le monde universitaire, une carrière assez classique. Et du coup, je tiens à rappeler que, en termes de carrière universitaire, il s'inscrit dans quelque chose d'assez global. Ce qui a vraiment fondamentalement changé, je pense, c'est son expérience. Je rappelle juste une chose, il a été boy scout quand il était au lycée, etc. Donc, il a beaucoup voyagé. Il est allé au Japon, il est allé aux Philippines, etc. Et je pense que c'est cette vision un peu large qui lui a permis d'avoir un autre rôle. Autre chose assez importante, c'est qu'il fait partie des seules figures politiques actuelles qui, en 71, donc en 1971, encore une fois très important, il n'était pas au Bangladesh. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout œuvré. Hein. Il a créé une newsletter à Nashville, etc., sur la communauté des Bangladeshis. Mais du coup, il ne faisait pas partie de ces familles politiques qui ont été directement engagées dans la guerre d'indépendance.
Et par ailleurs, on parlait de famille, et de famille politique certes, mais en termes de milieu social, est-ce qu'on peut dire que Mohamed Younous vient d'un milieu social plutôt aisé? Pour financer ces études-là, on aurait tendance à croire que oui. Est-ce que au Bangladesh, à cette époque-là, il y a vraiment une hiérarchie sociale assez déterminée et au sein de laquelle la famille Younous se trouve plutôt au-dessus?
Alors, il vient d'une famille relativement aisée et éduquée. Hein. Il est le troisième fils d'une famille de neuf, mais il est d'un père joaillier. Et alors, effectivement, pour reprendre quand même un peu ce que je disais tout à l'heure, il fait quand même partie d'une certaine élite économique.
On s'en doutait.
Voilà, de cette époque, effectivement, oui.
Isabelle Guérin, Mohamed Younous obtient un doctorat en économie en 1969 aux États-Unis, on le disait, et ce, sous la direction de Nicolas Georgescu-Rogan, qui est un personnage très important dans l'histoire de la pensée économique. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs et auditrices, nous rappeler ce qu'a apporté finalement ce directeur de thèse, alors non pas spécifiquement à Younous, mais à la pensée économique?
Ce qui est curieux, c'est quand même la rupture entre cette direction de thèse et ce qu'a fait Younous. Et c'est peut-être de ça dont je peux parler. Je ne sais pas trop dans quelle mesure, parce que bon, c'est vrai qu'il est souvent présenté et légitimé comme étant un professeur d'économie. Et finalement, ce qu'il a mis en œuvre, correspond.
C'est plus l'expérience qui est valorisée que la théorie.
Au début, il se dit lui-même quelqu'un de pragmatique. Et je suis pas sûre que ses études d'économie l'aient vraiment aidé à faire ce qu'il a fait. Je pense que c'est plutôt ça ce sur quoi il faut insister. Alors que, effectivement, ses études d'économie et ses diplômes d'économie sont souvent présentés comme une manière de légitimer le côté un peu scientifique de son action. Alors que, moi, je pense qu'il y a très peu de liens, en fait.
Et on va voir d'ailleurs aussi les conséquences que cela peut potentiellement avoir que de se référer uniquement au terrain pour construire tout un système économique et social. Avant cela, Sharza Shahabuddin, on l'a évoqué, la date de 1971 très importante, le Bangladesh obtient son indépendance. Comment s'opère cette transition pour le pays?
À partir de 71?
Oui. Dans quelles conditions s'opère cette prise d'indépendance?
Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, 1971, c'est donc ça fait, comme je vous le rappelais, entre 47 et 71, le Bangladesh fait partie, donc c'est le Pakistan oriental, excusez-moi. Et donc c'est à l'issue d'une guerre de 9 mois contre l'armée pakistanaise où les combattants pour la liberté, donc les Freedom Fighters, c'est très important parce qu'on en a aussi beaucoup parlé ces derniers mois, qui vont permettre l'accès à l'indépendance. Et ça fait partie, on pourra peut-être en reparler, mais Mohamed Younous, justement, n'a pas on a pu lui reprocher par la suite de ne pas toujours avoir eu un discours très clair et affirmé sur 71 et la place des combattants pour la liberté à ce moment-là. Et donc, 71, on va arriver dans une situation... Il y a eu entre 1 million à 3 millions de morts, donc le pays est décimé. Et dès 72, on va avoir une des premières graves, sévères crises alimentaires.
Alors justement, sur cette crise alimentaire qui est liée dans une majeure partie à des conditions météorologiques particulièrement défavorables, un journaliste de la RTS, la radio-télévision suisse, se rend au Bangladesh, alors en 75, quelques années après, et à l'époque, la famine fait rage.
Moi, je pense qu'il y a des millions qui vont mourir.
Des millions?
Oui, des millions. Nous ne savons même pas combien sont les chamois. On nous le raconte jamais exactement combien.
On a avancé le chiffre de 100 000 morts environ. Est-ce que vous pensez que c'est plus?
Oh, il y a beaucoup plus.
Vous pensez que c'est beaucoup plus?
Oui, il y a beaucoup plus. Depuis qu'on a eu le désastre.
C'est ça, oui.
Beaucoup plus, beaucoup plus. Moi, j'ai été au district Kumela et j'ai vu les morts là.
Quel est le chiffre que vous avanceriez vous-même?
Nous avons dit que maintenant, il y a au moins 300 millions.
Au moins 300 000 morts?
Au moins.
Et vous pensez qu'il y en a des millions qui vont mourir encore si ça continue?
Parce que maintenant, c'est le temps le pire. Ce mois, le mois prochain. Vous comprenez? Parce que la famine a juste commencé.
Charza Shahabuddine, une famine très grave touche le pays en 1974, qui, on le disait, est déjà durement touché par les conditions dans lesquelles se fait l'indépendance. Vous le disiez, la population est décimée. Cette famine de 74 va entraîner la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, entre 500 000 et 1 million selon les estimations. Dans quelle mesure est-elle liée à des événements météorologiques, comme je le disais à l'instant, et dans quelle mesure est-ce lié à la désorganisation aussi en termes d'infrastructures et de politiques publiques du pays qui suivent cette période de troubles qu'est l'indépendance?
Alors c'est évidemment multifactoriel. Je vais me permettre juste un tout petit point pour quand même resituer nos auditeurs. Donc on parlait tout à l'heure les modifications successives des frontières politiques. D'abord donc en 47 puis en 1971, ça a coupé les bassins fluviaux d'Asie du Sud. Donc pour rappel, le Bangladesh est situé dans la partie nord-est du sous-continent indien et elle est limitée au sud par le golfe du Bengale. Et le Bangladesh est presque entièrement enclavé par le nord-est de l'Inde et possède donc une courte frontière avec la Birmanie. Autre chose que je rappelle, je vais en venir à mon point sur les inondations, c'est qu'il y a 54 rivières et fleuves qui traversent la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Et donc cela crée un certain nombre de conflits. Donc en 74, ce n'est pas simplement un problème de production. En fait, au contraire, c'est une année où on réalise après coup les travaux des économistes qu'il y a eu une importante production de riz. Mais c'est vraiment les inondations massives qui vont précipiter le pays donc dans cette famine. En plus de cela, il y a un certain nombre en fait de problèmes d'acheminement. On va se rendre compte que les denrées subventionnées n'arrivent pas toujours à bon port, mais plutôt vers l'élite politique urbaine. Donc pas les populations concernées. Il y a beaucoup de contrebande. Il y a une thésaurisation massive. Il y a une incapacité du gouvernement à emporter. Et évidemment, de la corruption politique et administrative. Et c'est toutes ces raisons-là qui vont entraîner le pays dans cette grande famine de 74. Et une des raisons pour lesquelles le Bangladesh est connu mondialement à ce moment-là.
Et une des raisons aussi pour lesquelles Mohamed Younous va se saisir de cette question de la pauvreté et se sentir concerné par ce qui se passe dans son propre pays. Il est d'ailleurs de retour à cette époque-là sur le territoire du Bangladesh. Et de fait, cette situation-là, elle va alerter non seulement Mohamed Younous sans doute, mais aussi un certain nombre d'intellectuels, Charza Shahabuddine. Il va y avoir toute une génération qui va tenter de trouver des solutions pour aider le pays à se relever de cette situation-là.
Exactement. Alors effectivement, en 1974, c'est l'année où Younous va décider d'accorder, d'après son histoire, son récit, sur ses propres économies, des prêts à long terme à des porteurs de projets qui seraient issus de milieux défavorisés, pauvres. Et merci de cette question, parce que ça me permet aussi de rappeler que 1974, en fait, c'est aussi un tournant dans le monde associatif des ONG et des approches de développement, parce qu'on va se poser la question de l'importance de donner du pouvoir aux communautés marginalisées. Donc c'est aussi une approche que Mohamed Younous a, mais c'est pas le premier dans le sens où surtout, dès 1972, il y a la BRAC, Bangladesh Rural Advancement Committee, le comité de promotion rurale du Bangladesh, qui est créé, qui est aujourd'hui un des plus grands employeurs dans le monde, mais aussi au Bangladesh, donc avant la Grameen Bank. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est que comme la Grameen Bank, ce sont des organisations qui sont tournées vers des projets, mais c'est aussi une année, donc 74, où on va avoir beaucoup de réflexions. On a une grande influence des travaux de Paulo Freire, l'éducateur brésilien, qui, pour vous citer un ouvrage, l'ouvrage de référence Pédagogie des opprimés en 1968. Et c'est très important parce que c'est une approche. Moi, j'ai fait du terrain au Bangladesh avec une ONG qui s'appelle Nigella Koli. We do it ourselves. Nous le faisons nous-mêmes. Et c'est vraiment une approche sur la conscientisation des personnes marginalisées, des paysans, notamment des paysans sans terre. Je rappelle aussi pour, je pense que c'est assez important, on connaît énormément le Bangladesh pour son industrie du textile, sa croissance soutenue, etc. Mais le Bangladesh en 74, c'est 91% de la population qui est rurale et aujourd'hui c'est 65%. Et dans ces, parmi ces 65% de population rurale, plus de la moitié, enfin plus, autour de 60 sont des paysans sans terre. Et donc dernier petit point là-dessus, c'est que à ce moment-là, il y a aussi toute une autre un autre pan de l'approche développementaliste de développement, c'est-à-dire celle des qui est un peu une approche marxiste hein, de entre les opprimés et les oppresseurs qui vont se développer, qui vont donner lieu donc à des approches qui sont liées à la transformation du citoyen. Et non plus seulement l'idée de la banque prêt, etc. Cette logique-là.
Isabelle Guérin, cette prise de conscience de l'importance des populations plus précaires et aussi cette très forte, on va dire, tendance à se saisir du problème par le bas, est-ce qu'elle a des répercussions d'un point de vue théorique ? Est-ce que dans les années 70, plutôt 70, restons-y, il va y avoir au niveau de la science économique une façon de se pencher sur le problème du développement qui est spécifique à ces années-là ?
Et il me semble que je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Il y a à la fois une résonance entre le cas dramatique du Bangladesh que vous avez bien décrit, et puis effectivement tout un tas de questions qui se posent à la fois chez les économistes du développement et plus généralement dans le monde de ce qu'on appelle l'aide au développement, tout ce qui est coopération internationale. Et où on se rend compte que la manière dont on avait imaginé le développement, je mets des guillemets parce que c'est un terme très controversé, la manière dont on avait imaginé le développement des pays des Suds, finalement ne prend pas du tout le chemin qu'elle espérait. Hein, il y avait, je vais devoir passer un peu vite, mais historiquement, dans un premier temps, au lendemain des indépendances, alors bon, qui évidemment arrive à des moments variés selon les pays, mais je dirais par les années 50, 60, dans cette période-là, il y a cette idée de rattrapage et de miser sur des politiques plutôt macroéconomiques, de par exemple de substitution des importations, de renforcement de l'industrie, de modernisation de l'agriculture, en imaginant que les pays des Sud finalement finiront par ressembler aux pays du Nord, des Nord. Et puis on se rend compte que pour plein de tout un tas de raisons, ça ne prend pas ce chemin-là, que tout ceci suppose un interventionnisme public qui coûte assez cher. Une espèce de renverse, ça s'est fait de manière progressive, hein, et avec des applications inégales suivant les contextes et suivant les régions du monde.
Mais on essaie de trouver de nouveaux outils pour limiter cette dépendance aux aides internationales, et c'est d'ailleurs ce que va essayer de faire Mohamed Younous avec, on l'évoquait très rapidement, ce fameux microcrédit. Et d'ailleurs, lui-même met beaucoup en scène dans ses discours comment il nous raconte la façon dont cette inspiration lui est venue. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter son discours lorsqu'il a reçu le fameux prix Nobel de la paix en 2006.
I became involved in poverty issue not as a policymaker.
Je me suis emparé du sujet de la pauvreté, pas comme un politicien ou comme un chercheur. Je m'en suis emparé parce que la pauvreté était tout autour de moi et je ne pouvais pas l'ignorer. En 1974, je trouvais difficile d'enseigner d'élégantes théories économiques dans les classes d'université alors que sévissait une terrible famine au Bangladesh. Soudainement, j'ai senti la vacuité de toutes ces théories face à la faim écrasante et à la pauvreté. Je voulais faire quelque chose d'immédiat pour aider ces gens. Même si c'était aider juste une personne à finir la journée un peu plus facilement. Cela m'a mis face aux difficultés de ces gens pour réunir les plus petites sommes d'argent afin de subvenir à leurs besoins. J'étais choqué de découvrir qu'une femme du village avait emprunté moins d'un dollar à condition que son créancier puisse acheter tout ce qu'elle produit au prix que lui décide. C'était du travail forcé. J'ai décidé de faire une liste des victimes de ce créancier dans le village. Au total, il y avait 42 victimes qui avaient emprunté 27 dollars. J'étais sous le choc. J'ai payé ces 27 dollars de ma poche.
Isabelle Guérin, je rappelle que vous êtes économiste, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Alors là, on rentre dans le dur, dans le très concret. Que va proposer Mohamed Younous, qui est présenté comme novateur dans ses discours, pour lutter contre la pauvreté qu'il observe dans son pays natal, le Bangladesh ?
Alors, ce que propose Mohamed Younous, qui à la fois, il y a un côté novateur dont je vais parler, et en même temps une grande continuité, puisque de tout temps, dans l'ensemble des régions de la planète, il faut dire qu'il y a quand même toujours eu des expériences visant à aider les populations marginalisées avec des petits crédits, on va dire, même si le terme microcrédit n'était pas forcément utilisé. Donc voilà, le fait de proposer des crédits de faible montant, ce qui est la première caractéristique du microcrédit, c'est pas vraiment nouveau. Ce que Mohamed Younous va faire, c'est de dire deux choses. Le premier, c'est d'imaginer, effectivement, d'innover sur le plan des garanties. Parce que pourquoi les populations marginalisées n'ont pas accès au crédit ? C'est parce qu'elles n'ont pas suffisamment ou pas du tout de garanties matérielles. Hein, si demain vous allez chez votre banquier et vous demandez un crédit, on va vous demander une fiche de salaire, des biens qui seront susceptibles d'être hypothéqués, etc. Et donc, ce que Mohamed Younous observe, c'est que les pauvres, entre guillemets, je dis mais des guillemets parce que qu'est-ce qu'un pauvre ? Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Que ces populations démunies n'ont pas de garantie matérielle ou pas suffisamment, mais en revanche, elles ont une autre forme de garantie, des garanties sociales, hein, avec des réseaux sociaux et des modes de fonctionnement propres à ces communautés qui font de des liens sociaux une richesse. Et donc il dit, appuyons-nous là-dessus. Voilà, faisons de ces liens sociaux une garantie. Le principe est très simple. Voilà, on est toutes les trois. Si on veut accéder à un crédit, j'ai accès au crédit la première. Et une fois que j'ai remboursé, c'est vous qui accédez au crédit et ça tourne. Et les liens sociaux forts que l'on a entre nous feront que ce microcrédit réussira. Alors nous, si on fait ça aujourd'hui, ça risque peut-être pas de très bien marcher puisqu'on se connaît pas très bien.
Pas encore.
Mais voilà, l'idée, c'est de dire que dans toute cette communauté des Suds, il y a un premier problème d'une espèce d'essentialisation, mais bon, on pourra peut-être en parler après. Cette idée que, voilà, pour plein de raisons différentes, les communautés villageoises ont des liens sociaux forts et sont en mesure d'exercer une pression sociale les unes sur les autres qui peut faire office de garantie.
C'est ça, en fait, Charza Chahabouddine. En fait, il y a vraiment ce postulat en raison d'un lien social très fort, et puis presque, alors parler de culpabilité, c'est peut-être beaucoup, mais en se disant que chacun a un contrôle quasiment direct de l'autre entre individus, ce microcrédit va fonctionner, qu'on va chercher à rembourser parce qu'on se sent presque sentimentalement obligé de le faire, qu'il y a une proximité sociale qui fait qu'on va, malgré tout, malgré les très faibles moyens, continuer à rembourser cet emprunt.
Évidemment, du coup, à l'échelle des villages, en fait, les communautés, les groupes sociaux sont très importants. Une des innovations majeures aussi de Mohamed Younous, c'est aussi de cette époque, pas que lui, ça a été de, entre guillemets, parier sur les femmes, en fait, d'offrir énormément de garanties et ses capacités et cette confiance dans les femmes pour à la fois rembourser à temps, pour à la fois savoir qu'elles dépenser l'argent de manière, entre guillemets, correcte, etc.
Ce qui, là aussi, est une forme de cliché, c'est faire reposer un modèle économique sur...
Ça peut être tout à fait un cliché, mais au vu du parcours qu'il a eu donc dans les années 70, ensuite on voit que dans les années 90, il va siéger à la Commission mondiale pour la santé des femmes, etc., de ces groupes d'experts. Donc je pense qu'il y avait toute une réflexion aussi sur qu'est-ce que sont ces communautés marginalisées. Et puisqu'on parle aussi d'une société extrêmement patriarcale où, alors aujourd'hui, on a des taux d'alphabétisation qui ont explosé, les femmes accèdent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus scolarisées, même si, bon, ensuite, elles n'accèdent pas toujours à des postes à l'université ou à l'emploi, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout cette situation en termes de scolarisation, et donc les femmes n'avaient pas forcément d'accès à l'emploi.
Quand ma famille traversait des temps difficiles, je pensais à mes compétences manuelles. Au lieu de travailler à l'extérieur, j'ai pensé commencer une entreprise à la maison. Nous avions du mal à mettre de la nourriture sur la table. J'ai donc emprunté de l'argent à la Grameen Bank pour commencer une entreprise de fabrication de paniers. J'ai commencé avec 3000 tacas, empruntés à la Grameen Bank. Je devais payer des acomptes de 75 tacas par semaine. J'ai remboursé l'argent en un an et j'ai renouvelé mon emprunt. Nous n'avions rien, seulement un toit en chaume. Grâce à mon entreprise, j'ai pu acheter un terrain et construire cette maison. C'est un grand accomplissement pour moi.
Voilà, c'était un extrait d'un reportage réalisé en 2015 pour le Wall Street Journal dans lequel on entend Basia Khatouneh, une femme qui fabrique des paniers dans le centre du Bangladesh. Elle raconte qu'elle a pu emprunter 3000 tacas, soit 38,52 $, moyennant le remboursement de 75 tacas par semaine. Et je crois que c'est environ, c'est un petit peu moins d'un dollar. Isabelle Guérin, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont est octroyer ce crédit? Est-ce qu'on se renseigne quand même sur les profils avant de donner l'argent? Est-ce qu'il faut que le projet soit quand même considéré comme viable d'une certaine manière? Et surtout, est-ce qu'il y a des intérêts qu'on paye comme dans une banque classique?
Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que, donc là, on parle du modèle microcrédit mis en place par Mohamed Younous, qui a d'ailleurs pas mal évolué au cours du temps. Il y a X manières de faire du microcrédit, il y a plein d'organisations différentes qui ont des idéologies différentes, des histoires différentes, des méthodes différentes.
Donc, vous évoquez d'ailleurs dans vos articles des choses qui m'ont intrigué. Vous avez évoqué notamment la République des villages d'inspiration gandhienne et des organisations caritatives et religieuses. On sent qu'il y a tout un panel de traditions du crédit très différentes.
Oui, tout à l'heure quand je disais qu'il me semble que le personnage de Mohamed Younous a introduit deux choses. La première, cette innovation dont on a déjà parlé, qui existait déjà, mais qu'il a popularisé, qu'il a médiatisé. Et la première, c'est cette question de la médiatisation, de vraiment d'avoir fait un modèle mondial. Et voilà, il arrive à un bon moment où un certain nombre d'acteurs se posent des questions, comment lutter contre ces problèmes de pauvreté que les recettes habituelles n'arrivent pas à résoudre. Donc pour revenir à votre question concrète, plusieurs choses. La première, c'est que je vais peut-être rentrer dans le vif du sujet le fond de ma critique, c'est quoi? Alors j'ai à la fois un regard critique et en même temps bienveillant, je crois, hein, parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que ce qu'on a entendu, le témoignage qu'on a entendu est assez typique, voilà, des histoires à succès qui sont véhiculées pour montrer à quel point ce microcrédit serait le point de départ d'un chemin vertueux. Moi, avec d'autres, je considère qu'il y a un vrai besoin d'accéder, de proposer des services financiers à des populations qui n'y ont pas accès, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde financiarisé où il faut pouvoir épargner, emprunter, etc. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question l'idée de services financiers qui soient accessibles à tous, mais il s'agit de remettre en question la première idée qu'on a entendue là à plusieurs reprises, c'est le microcrédit comme lutte contre la pauvreté. Et ça, moi, je suis radical. Voilà, ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur ces questions. J'ai fait des enquêtes dans plein de régions du monde avec d'autres collègues. Ça ne marche pas.
Cela dit, Isabelle Guérin, je crois que vous n'êtes pas la seule oui. à estimer que les effets de ce microcrédit ne sont pas réellement efficaces. Et je vous propose justement d'enchaîner et d'écouter Esther Duflo qui partage en partie votre avis.
L'idée de Younous, c'était les pauvres, avec ces emprunts, ils vont lancer des entreprises. Bon, la première partie, il avait raison, c'est-à-dire c'est possible de prêter aux pauvres. Et ça, c'est une invention qui est une invention importante. Mais la deuxième partie, il avait tort. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont un emprunt, une fois que les gens prennent un emprunt, ce qu'ils font avec, dans l'immense majorité des cas, c'est qu'ils s'achètent quelque chose dont ils ont besoin, dont ils ont envie, mais qui ne commence pas un business. Par exemple, un frigidaire, un vélo, etc. Et après, ils vont travailler un petit peu plus dans le travail qu'ils ont déjà pour rembourser la dette. Et c'est vraiment une minorité très 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 extrêmes de gens qui prennent l'argent soit pour commencer une nouvelle activité, soit pour étendre l'activité qu'ils ont déjà. Et du coup, le résultat, c'est que le microcrédit, c'est un petit peu comme une carte de crédit en fait. Une carte de crédit pour les pauvres. Et c'est très bien les cartes de crédit, ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement, mais ça ne les sort pas de la pauvreté. Et ça, c'est des résultats que j'ai pu trouver avec lesquels j'ai travaillé, mais qui ont été répétés dans plusieurs contextes, qu'on aille de l'Éthiopie à l'Inde, en Bosnie-Herzégovine, même en France, les effets du microcrédit sont zéro sur la sortie de la pauvreté, l'augmentation de la consommation, même le lissage de la consommation, etc. Il n'y a simplement pas d'effet.
Voilà, en fait, toute la question, Isabelle Guérin, et qu'on entendait ici soulevée par Esther Duflo au micro de Guillaume Herner sur France Culture en 2018, toute la question est de savoir si, effectivement, le microcrédit permet de devenir ou non véritablement entrepreneur.
Oui, donc là, on se rejoint, effectivement, il y a un des arguments récurrents de Mohamed Younous, encore aujourd'hui, c'est de dire tout le monde peut être entrepreneur. Et c'est vrai qu'au début, ça séduit beaucoup de diverses idéologies. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, par les politiques, depuis la gauche jusqu'à la droite et parfois très à droite. Et avec cette idée que on fait confiance aux personnes. Et ça, c'est ça qui séduit des idéologies très variées. Le problème, c'est que voilà, il y a une espèce de méprise sur l'entrepreneuriat. Il y a cette idée que dans les pays des Sud, où il y aurait beaucoup d'informalité et où les entreprises seraient de petite taille, c'est finalement assez simple et que la barrière principale serait le crédit. Et en fait, non, la barrière principale, c'est tout un tas de choses. C'est d'avoir accès à un réseau de fournisseurs et de clients. C'est d'avoir des compétences relationnelles, hein, pour se faire payer à temps, pour pouvoir négocier les prix à la fois avec ses fournisseurs et ses clients. Et puis, il faut des clients. Voilà. Et donc, le problème récurrent que j'ai observé de nombreuses fois, c'est qu'éventuellement, le microcrédit va permettre à une petite activité qui existe déjà de se renforcer. Mais le marché étant limité, et le microcrédit étant largement insuffisant pour provoquer un choc qui permet de dynamiser des économies locales, si vous n'avez pas une politique beaucoup plus massive visant à redynamiser une économie locale ou régionale, il va simplement y avoir des effets de substitution. L'entreprise qui a bénéficié un petit peu du microcrédit va se substituer à sa voisine.
Alors nous allons voir quels ont été les effets, peut-être positifs, nous le verrons, du microcrédit sur l'économie du Bangladesh, et nous verrons effectivement quelles sont les critiques qu'on peut peut-être pousser encore plus loin au fur et à mesure que Mohamed Younous déploie finalement cette idée, notamment au sein de la Grameen Bank, puis de ce que vous évoquiez, Isabelle Guérin, de ce fameux social business dont on va comprendre les tenants et les aboutissants. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la voix de Farida Parvin qui interprète ici le titre Paremoy Jaumai. Comme tous les mercredis désormais, Entendez-vous l'écho dresse le portrait de penseurs de l'économie. Et aujourd'hui, c'est sur celui de Mohamed Younous, devenu depuis homme politique, que nous nous penchons. Et cette émission a été réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Et nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Isabelle Guérin et de Charza Shahabouddine, doctorante associée au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes et dont la thèse s'intitule « État, religion et société au Bangladesh entre sécularisme et islamisme ». Charza Shahabouddine, on s'est quitté donc sur les limites de ce microcrédit que Mohamed Younous invente, et je mets plein de guillemets évidemment, puisqu'on a compris qu'il n'en était pas forcément le pouvait pas forcément réclamer la paternité. Mais cela dit, ce qu'il faut dire également, c'est que une fois que Mohamed Younous comprend le principe de ce microcrédit, le met en place à des échelles quasiment individuelles, puisqu'il le dit dans ses discours, il prête lui-même son argent à une femme qu'il aurait rencontrée dans la rue. Ensuite, tout ça va se développer et en 1983, il fonde sa propre banque, la Grameen Bank. Comment expliquer que dans les années 80 au Bangladesh, les autorités et les politiques donnent leur assentiment à la création d'une telle banque? L'heure était à la recherche de solutions.
Je vais juste me permettre un très rapide détour historique. Vous l'aviez rappelé, hein, il y a eu 74 et puis ensuite en 1976, c'est lorsque Mohamed Younous est directeur du programme d'économie rurale à l'université de Chittagong en tant qu'enseignant. Il va à ce moment-là lancer sa première étude, son premier programme d'études de faisabilité pour voir s'il est possible d'avoir un système de crédit pour fournir des services bancaires aux pauvres dans les zones rurales, notamment Chittagong. Et en fait, il va donc commencer, on retrouve ça beaucoup dans les articles, on m'avait posé la question, il va commencer à Djobra, qui est une ville adjacente en fait.
Il le dit dans son ouvrage. Oui.
Voilà, il en parle beaucoup. Mmh. Je crois que là, ils ont inauguré un musée, etc. pour honorer cette période. Et donc, il va commencer avec Djobra près de l'université et ensuite dans les villages alentours. Et c'est une expérience qui va se dérouler entre 76 et 79. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le projet, il est parrainé par la Banque Centrale du Bengale et les banques commerciales à l'époque, ils sont nationalisées. Et ensuite, il va petit à petit étendre cela. Il y a un succès de cette extension à Tangail, une autre région, pour parvenir en 1983 à ce que la Grameen Bank devienne une banque indépendante. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de toutes ces questions, mais ce qui est évident, c'est que dans les années 80, à partir des années 1985, on a un certain nombre aussi de changements de régime politique. En 1975, c'est l'assassinat de Sheikh Mujibur Rahman, le père, celui qu'on appelle le père fondateur du Bangladesh. C'était plutôt national-socialisme. Ensuite, on va avoir une ouverture du marché et en fait, l'entrée en plein dans l'ère néolibérale. Et la Grameen Bank et son développement s'inscrit dans la fin de ces années 80.
Isabelle Guérin, est-ce que le FMI et la Banque mondiale, qui sont quand même présentes sur ces terrains-là, enfin en tout cas qui regardent les économies de ces pays-là, dont le Bangladesh, est-ce qu'elles voient d'un bon œil finalement la création de ce type d'établissement bancaire?
Ah ben absolument, absolument. On n'a pas évoqué ça encore, mais j'évoquais tout à l'heure l'essoufflement des pratiques historiques d'interventionnisme. Voilà, ça coûte trop cher, ça crée de l'endettement. A succédé à cela les fameux plans d'ajustement structurel, hein, consistant à imposer au gouvernement, aux pays des Sud, des mesures absolument drastiques de réduction des dépenses publiques comme condition de prêts et de financement accordés par le FMI. Et donc il faut trouver d'autres solutions voilà, qui soient beaucoup plus individuelles et qui soient moins chères. Et c'est vrai que le microcrédit est là, et le succès phénoménal du microcrédit, et qui explique qu'encore aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est très plébiscité, c'est que, pour la première fois, on prétend lutter contre la pauvreté tout en ayant une méthode qui soit pérenne dans le temps, hein, puisque les gens remboursent.
Et qui consiste par ailleurs à mettre la responsabilité sur l'individu qui a emprunté.
Complètement. Donc il y a à la fois cette idée de responsabilité individuelle. Voilà, les personnes sont responsables elles-mêmes de la sortie de la pauvreté, et en même temps, les outils qu'on met en place pour les aider à sortir de la pauvreté vont se pérenniser dans le temps sans subvention. Donc le credo et le slogan de Mohamed Younous, c'est de dire, c'est ce qu'il va intituler ça, son modèle de business social, et le microcrédit est le prototype en quelque sorte. Pas de perte, pas de profit. Et donc avec cette idée que le microcrédit a fait ses preuves et permet d'équilibrer ses comptes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de subventions.
C'est une simple huile dans les rouages. En fait, c'est un effet neutre. Ça permet de faire fonctionner l'économie.
Mais au sens où mettre en place une banque de microcrédit peut se faire au même titre qu'une banque privée et ne nécessite pas de subventions publiques. Donc c'est la première fois qu'on pense qu'on peut lutter contre la pauvreté sans subventions publiques.
Et on comprend que ça. Que
et donc
ça
c'est extrêmement séduisant. Et l'expérience montre donc à la fois on se trompe sur l'idée qu'on peut transformer les pauvres en entrepreneurs, et on se trompe aussi, à mon sens, sur le fait qu'on peut mettre en place des services de microcrédit à des taux abordables et dans des conditions acceptables pour des populations démunies. Faire du microcrédit et plus généralement offrir des services financiers à des populations marginalisées, ça coûte cher.
À quelle heure tu vas m'envoyer l'argent?
Je t'appellerai quand je l'aurai.
Je t'avais dit de m'envoyer l'argent la semaine dernière déjà, et il fallait que tu viennes au rendez-vous.
Je suis inquiète. Je pense que le créditeur va venir chez moi ce soir avec 4 ou 5 personnes pour récupérer l'argent que je lui dois. Mais je ne l'ai pas. Comment est-ce que je suis censée le rembourser ?
De février à juin, on n'a pas de travail. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Il faut bien payer la nourriture, les frais médicaux. Ils proposent des prêts, alors moi, je les prends. Je n'ai pas le choix. J'ai des bouches à nourrir. Je prends de nouveaux prêts pour rembourser ceux d'avant. J'essaye de dire aux autres femmes du village de ne pas tomber dans ce piège comme moi je l'ai fait. Je leur dis, ne prenez pas de prêts. Ou vous vivrez cet enfer comme moi.
Ce qu'on entend dans ce reportage diffusé sur France 24 en 2023, c'est que le microcrédit qui a pu représenter un certain avantage pour les personnes qui avaient recours, vous l'avez dit vous-même Isabelle Guérin, ça a été un mécanisme très très sollicité à une époque, c'est aussi, ça se transforme aussi en forme de pression et certains se retrouvent dans une forme de spirale de l'endettement dont ils ne sont plus tellement capables de sortir, sans doute parce qu'on ne leur a pas forcément expliqué les tenants et les aboutissants de cette mécanique de l'endettement.
Oui, alors je pense que là, il faut distinguer plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, non seulement c'est très rare que le microcrédit transforme des gens en entrepreneurs, reconnaître quand même qu'il peut y avoir des effets positifs, c'est-à-dire qu'une dame qui, il y a le cas du frigo, j'ai déjà une gargote et je m'équipe un frigo pour proposer des boissons fraîches à mes clients, très bien. Mais voilà, le fait de se transformer en entrepreneur, c'est pas le microcrédit qui va faire ça. Et donc, deuxième cas de figure, et un très grand nombre de cas, c'est quand même du crédit à la consommation, à des taux qui sont quand même très élevés pour assurer la pérennité du système, et donc ce qui pose des problèmes de remboursement. Mais, et là où c'est quand même très utile de nuancer les choses, c'est que pourquoi Younous est quand même une certaine forme de starification, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une demande. Et c'est ça qui est fondamental, et le microcrédit arrive aussi à un moment de l'histoire où il y a, dans un certain nombre de pays, un décalage croissant entre des revenus réels qui sont stagnants ou qui déclinent, et des dépenses qui explosent. Inflation sur les matières premières, et donc sur l'alimentation, l'énergie, biens de consommation courante maintenant, où que vous soyez, il faut un téléphone portable. Hein. Il faut un véhicule à deux roues, il faut mettre de l'essence dans le réservoir. Donc une baisse de l'autoconsommation parce que l'agriculture, dans plein de contextes, diminue. Donc il y a un décalage croissant entre ce que les gens gagnent et ce dont les gens ont besoin, privatisation de la santé, de l'éducation. La dette est la seule manière de combler ça. Raison pour laquelle le microcrédit a un succès considérable. Et je crois qu'il est important d'avoir ça en tête pour éviter de diaboliser et de simplement s'arrêter à une critique des promoteurs du microcrédit. Et il faut quand même se poser des questions de fond, pourquoi les gens en veulent ?
Et ça, Charza Chahabouddine, et pour bien le comprendre, et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, Isabelle Guérin, c'est qu'il faut dire que tout cela s'inscrit dans un contexte plus global qui est celui du Bangladesh dans les années, au début 80, puis 90-2000. À ce moment-là, il y a quand même une forme de dynamisme économique qui s'impose, mais effectivement, il faut que les citoyens et les citoyennes puissent suivre.
Tout à fait. En fait, il y a vraiment la question, pour vous rejoindre, de, en fait, le modèle du social business, poser la question de est-ce que cela remplace la responsabilité collective. Et ce qu'on dit, en fait, en filigrane depuis tout à l'heure, c'est où est-ce que l'État. La vraie question, c'est que dans les années 80, et à mon sens, ça va être très intéressant de suivre aujourd'hui le parcours de Mohamed Younous, qui, par exemple, dans son ouvrage de référence 2007, Vers un monde sans pauvreté, alors il établit un certain nombre de critiques, il dresse un certain nombre de critiques sur le capitalisme, mais il parle de nouveau capitalisme, et en fait, ce qu'on ressent, c'est que quelque part, c'est pas de la défiance ni de la méfiance, mais il y a presque totalement une absence des institutions étatiques. Et maintenant que lui est chef du gouvernement intérimaire, la question va vraiment se poser. Donc cette question d'abord de est-ce que le social business remplace la responsabilité collective, l'idée de se dire, est-ce qu'un État, est-ce qu'un pays peut être géré comme une entreprise aussi ? Vous avez aussi évoqué cette chose qui médiatiquement fonctionne très bien. En chacun de nous sommeille un entrepreneur. C'est une vision rationnelle de l'agent économique, mais qui ne va pas forcément avec la réalité des villageois, déjà d'une, parce qu'on n'est pas du tout homogène dans notre manière d'aborder notre consommation, nos choix, etc. Mais aussi parce que c'est la question, à mon sens, la plus importante, c'est quand on veut sortir de la pauvreté, est-ce qu'on sort de la pauvreté parce qu'on a 2 dollars par jour, ou est-ce que c'est parce qu'on a appris à avoir accès à des droits et qu'on sait ce que c'est et comment exercer la citoyenneté ?
Charza Chahabouddine, vous avez évoqué un mot et qu'on a évoqué pas mal de fois au cours de cette émission et sur lequel il faut s'attarder, c'est celui du social business. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mohamed Younous ne s'est pas arrêté à la Grameen Bank. Il a construit, ensuite il a contribué à faire développer de nombreuses filiales. Et c'est là qu'il faut peut-être entrer dans la nuance de ce fameux capitalisme à visage humain tel qu'il le conçoit. En quoi consiste-t-il ?
Le social business, j'ai repris les termes les plus simples, ça correspond à une entreprise qui crée pour répondre à des besoins sociaux. Donc à partir de là, effectivement, donc c'est le côté humain. Mais ça, encore une fois, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives exceptionnelles dans le monde. Enfin aujourd'hui, à titre d'exemple, Mohamed Younous s'inspire énormément et travaille beaucoup avec Make Sense, par exemple, en France. Mais la question est toujours de savoir, est-ce qu'on va venir pallier aux déficiences de l'État ? Est-ce qu'on va venir remplacer les institutions étatiques et les services publics ? Et le danger, c'est de perdre le service public et du coup de privatiser à tout azimut, que ce soit l'éducation, que ce soit les énergies renouvelables. Par exemple, dans son ouvrage encore en 2007, il parle de conceptualisation et de mise en place de polices d'assurance. Ça pose la question de est-ce que... Alors c'est possible, évidemment, les hommes peuvent le faire à leur échelle, mais est-ce que c'est ce type de société qu'on veut créer ?
Isabelle Guérin, est-ce que ce risque, effectivement, comme on l'évoquait à l'instant, de voir ces instances bancaires plus spécifiquement tournées vers les populations locales, de voir ce risque de les voir, donc ces instances remplacer des réformes plus en profondeur que pourraient mener des politiques publiques d'ampleur ? Est-ce que ça a été identifié comme tel par les économistes, pas que au Bangladesh ?
C'est une revendication très ancienne. Voilà, il y a tout un tas de mouvements sociaux qui ont parfois des idées plus novatrices que les chercheurs et les économistes, qui très vite identifient les limites du modèle, voient très bien que c'est une forme d'individualisation et d'économicisation de la pauvreté. Voilà, je pense à des mouvements féministes avec lesquels j'ai travaillé en Inde, qui me disaient, allez, il y a une vingtaine d'années déjà, on voulait des droits de propriété et de la protection sociale, on a eu du microcrédit. Voilà, on est vraiment sur une mesure individuelle qui n'a rien à voir avec l'immensité des besoins en matière d'infrastructure. Et c'est là où la question du business social, j'essaie d'avoir un discours un peu nuancé. Dans un certain nombre de circonstances, ça peut être intéressant. Voilà, mais imaginez, revendiquer ce que fait Younous, que l'on peut résoudre l'ensemble des problèmes de la planète, parce que les questions environnementales sont aussi intégrées là-dedans, avec ce modèle du business social qui consiste à pas de perte, pas de profit. C'est-à-dire qu'on se passe de subventions publiques. Et donc, on voit ça dans l'énergie, le gaz, l'électricité, l'accès à l'eau, l'assainissement, la santé. Et le problème, c'est que ça va se répéter à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est sur le bout du problème, alors que l'infrastructure manque. Je donne deux exemples. La santé. On fait des assurances santé. OK, on demande aux populations démunies de payer pour une assurance santé. On ne s'occupe pas des hôpitaux, des médecins et des médicaments. Et je pourrais décliner ça sur tous les secteurs. Donc les conséquences sont dramatiques.
Et puis, il y a une autre question que j'avais envie de vous poser, Isabelle Guérin, c'est que là, on parle de processus mis en place dans les années 70 et puis de façon plus formelle dans les années 80 avec cette fameuse Grameen Bank. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, et que les décennies passent, et que le mécanisme fonctionne finalement du microcrédit, est-ce que les personnes qui ont recours à ce microcrédit évoluent en termes de profil ? Est-ce qu'au fur et à mesure que la Grameen Bank grossit, que Younous développe ses filiales, on fait de plus en plus attention à qui vient réclamer un crédit ? Et est-ce que finalement, il n'y a pas une décorrélation avec les besoins réels de la population locale ?
Ce qui est certain, c'est que je crois que ce qui a fait vraiment du mal à ce secteur du microcrédit, c'est cette idée selon laquelle il y a un modèle de pérennité financière serait possible sans subvention. Parce que du coup, il faut que les organisations équilibrent leurs comptes. Comment on fait pour équilibrer ces comptes ? On augmente les taux d'intérêt. Donc on n'en a pas encore parlé. Enfin, vous m'aviez posé la question, je n'y ai pas répondu. Il y a une grande disparité, mais on est en moyenne sur des taux réels, parce qu'après, il y a des taux affichés, puis il y a les frais d'assurance, et puis il y a les frais de ceci, de cela. On est quand même 30-40% par an. Donc imaginez, vous, si vous payez un frigo avec un taux d'intérêt de 30-40% par an,
c'est important.
C'est quand même important. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Sur ce qui implique de rentrer dans ces frais, finalement.
Voilà, pour rentrer dans ces frais, taux d'intérêt, sur ce sort de démarchage commercial. Vous êtes sûre, madame, que vous n'avez pas besoin d'un crédit quand même, si vous éduquez vos enfants, vous êtes une mauvaise mère si vous ne leur payez pas telle ou telle chose, un ordinateur portable, que sais-je. Agressivité commerciale. Concentration sur des terrains délimités, c'est-à-dire que c'est plus rentable d'aller s'installer là où il y a déjà des concurrents. Vous allez donc avoir des zones qui sont désertées et des zones où il y a une surconcurrence, une saturation et un surendettement massif. Tolérance zéro en matière de remboursement, ce qui est unique. C'est-à-dire que, comme l'ont dit un certain nombre de... Je pense à David Graeber, anthropologue, la dette, 5000 ans d'histoire. Qui paye ses dettes ? Tout le monde ne paye pas ses dettes de la même manière. Et là, on a l'illustration magistrale que les pauvres payent leurs dettes. Vous comparez les taux de remboursement du microcrédit avec les taux de remboursement de n'importe quelle banque, les pauvres remboursent beaucoup plus parce qu'il n'y a aucune tolérance avec pression sociale, avec parfois tout simplement interdiction de réemprunter. Et comme les gens ont désespérément besoin d'emprunter, ils remboursent extrêmement bien, et les femmes en particulier.
Charza Chahabouddine, on le disait, Mohamed Younous a une logique de diversification. Donc il y a cette fameuse Grameen Bank, il y a aussi Grameen Shakti qui est dans l'énergie solaire, Grameen Danone pour l'alimentation, Grameen Telecom dans les télécommunications, on s'en doute. Est-ce que au Bangladesh, comment considère-t-on Mohamed Younous? Est-ce qu'on se dit c'est un entrepreneur génial, ou est-ce qu'il a beaucoup plus cette figure d'inventeur d'une nouvelle forme de solidarité et presque, alors je sais que vous n'aimez pas l'expression, mais presque de sauveur également.
Alors la première chose aussi, pour quand même un peu nuancer, effectivement la Grameen avec ses, je crois, plus de 3000 succursales maintenant, c'est plus de 22 000 salariés, c'est un des principaux employeurs, enfin c'est un grand employeur au Bangladesh, donc pour ça quand même il y a une grande reconnaissance envers Mohamed Younous. Faut pas oublier aussi que le Bangladesh est un pays jeune qui a été longtemps considéré comme pauvre, etc. Et le fait qu'il ait pu faire rayonner le Bangladesh à travers son prix Nobel, le modèle du microcrédit,
ça a énormément joué.
Et je ferai une petite différence, effectivement, par exemple je discute hier, je posais des questions justement sur Mohamed Younous à mon ami de Nigel Akoli, et c'est des gens qui en fait sont capables de critiquer idéologiquement la vision du microcrédit, mais pas le travail apporté et fait par Mohamed Younous. Donc il y a ce respect qui existe dans le monde du développement. Et pour la jeunesse actuelle, je pense qu'il y a une certaine partie, donc quand on dit la jeunesse, désolé, hein, c'est un groupe qui est très très hétérogène, en tout cas ceux qui ont participé à créer ce mouvement étudiant contestataire, parmi eux, il y a une... Je dirais que la majorité est quand même a été éduquée en fait de manière assez similaire à Mohamed Younous, soit parce qu'ils ont étudié dans des English medium, donc ont suivi des cours en anglais, soit parce qu'ils sont allés étudier aux États-Unis, etc. Donc on est aussi dans une société jeune qui est très ubérisée. Donc en fait toutes ces questions de microcrédit, nous, ce qu'on se pose ici, elles se posent dans un certain milieu, mais pas forcément pour ces jeunes qui veulent en fait avoir un emploi.
Oui,
tout simplement.
Oui, et qui est une forme de modèle.
Apporte
oui.
quelque part cette réponse. Donc, je pense qu'on, dans ces questions de où est-ce qu'il y a l'État, oui, et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que, comme ça fait quasiment 15 ans qu'il y a ce gouvernement au pouvoir, qui a eu beaucoup, beaucoup d'abus et de corruption, en fait, le problème, c'est que l'État est inexistant. Enfin, les institutions étatiques, on les cherche. Donc, en face de ça, effectivement, Mohamed Younous semble apporter une réponse.
Et par ailleurs, Charza Chahabouddine, on l'a dit, il y a une forme de dynamisme très fort au Bangladesh ces dernières années. Il y a un taux de croissance qui est, je crois, de l'ordre de 6,5%, presque 7, voilà. Dans quelle mesure est-ce lié justement avec ce travail depuis la base, ce travail de microcrédit? Est-ce qu'on peut établir un lien, sachant qu'il y a évidemment toute l'industrie textile derrière et l'exportation, tout ce que cela implique, mais est-ce que quand même il y a cette forme de reconnaissance vis-à-vis de Mohamed Younous?
Je pense que l'accent, il est vraiment à mettre sur les femmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont vraiment émergé comme étant une catégorie à part entière. Donc forcément, le microcrédit a joué dans ça. Mais au final, ce qu'il faut vraiment retenir, puisque on arrive à la fin de l'émission, le Bangladesh, finalement, s'est sorti tout seul de la pauvreté, avec, vous l'avez dit, une multiplication de mesures et de réformes. Je parlais tout à l'heure de la scolarisation. Il y a l'industrie du textile, où il y a quasiment, je crois, 75% des travailleuses qui sont issues, qui travaillent dans ce milieu. Excusez-moi. Donc moi, je dirais quand même que c'est vraiment grandement l'implication des femmes et leur arrivée dans le marché du travail qui a fondamentalement changé le Bangladesh sociétalement, économiquement.
Et cela dit, il y a encore peut-être pas mal de pain sur la planche, dans le sens où on apprenait hier par l'AFP qu'il y avait un très fort mouvement de grève, notamment dans les industries textiles, qui réclamait des hausses de salaire. On ne peut pas dire que la situation soit totalement stabilisée pour le moment, loin de là.
Pas du tout, et je pense que ce soit Mohamed Younous avec ce gouvernement intérimaire, il lui reste énormément de choses à faire, et notamment à commencer surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est une justice indépendante.
Merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Guérin et Charza Chahabouddine, d'avoir participé à cette émission. Merci. Isabelle Guérin, je rappelle que vous êtes économiste, chercheuse à l'IRD, et Charza Chahabouddine, vous êtes doctorante associée au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes de l'EHESS-CNRS, enseignante à Sciences Po et à l'INALCO, et je crois que vous soutenez bientôt votre thèse. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Bruno Barada, Isadora Nebo, Diane Devancet, Tina Young et Anouk Mio. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture, à la page Entendez-vous l'écho, où vous pourrez la trouver, ainsi que toutes les précédentes. Et elle est également disponible en podcast sur l'application Radio France, application qui a fait peau neuve récemment. Donc vous pouvez aller vous abonner à l'émission.
Et on se quitte sur le générique de l'émission d'Entendez-vous l'écho. Et je vous dis à demain.